Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne durant la case.
Aujourd'hui, allons à la rencontre de Jean Cocteau, l'inclassable, le génial touche-à-touche, l'artiste, d'abord poète, dont le talent de l'écriture s'épanouit aussi bien au roman, au théâtre, au cinéma que dans l'ensemble de la littérature. Avec d'autres, il a inventé une forme de roman qu'il appelait lui-même sa poésie de roman, éloignée du modèle balzacien. Il connut son premier grand succès avec Les Enfants Terribles, publié en 1929. Peintre, dessinateur, il travailla également avec les musiciens Eric Satie et Darius Milhaud. Les années 30 ont été pour lui une période d'intense créativité liée à l'univers du théâtre où il occupa une grande place. Les Mariés de la Tour Eiffel en 24, en 1930 ce fut La Voix humaine, puis La Machine infernale, Les Parents terribles en 1938. Mais quel voyageur était Cocteau? Quel regard posait-il sur l'Égypte? Par deux fois il s'est rendu en Égypte, en 1936 et en 1949. Ce sont des moments un peu moins connus de sa vie. Ses voyages lui inspirèrent des textes, « Mon premier voyage » et « Un journal, Malèche ». Ahmed Youssef, vous êtes originaire d'Alexandrie, vous êtes écrivain et journaliste au journal égyptien Al-Ahram, en poste à Paris, et vos articles et vos livres font autorité sur tous les sujets qui font le pont entre l'Égypte et l'Occident, l'Égypte et la France, l'Égypte et l'Europe. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, « Bonaparte et Mahomet, le conquérant conquis », c'est votre premier livre, « La fascination de l'Égypte, du rêve au projet », « Cocteau l'Égyptien », sur lequel nous allons beaucoup revenir aujourd'hui, que vous avez publié en 2001, et puis plus récemment en 2003, « Un calife à l'Élysée, l'Orient » de Jacques Chirac. Et ce sont principalement des essais, mais vous avez aussi écrit un récit, « Rêve de convalescence » en 2004, avec Naguib Mahfouz et Mohamed Salouani. Oui. Donc, vous aussi, vous essayez à plusieurs genres littéraires. Ahmed Youssef, bonjour.
Bonjour.
Où avez-vous appris notre langue? Dans quelles circonstances?
D'abord dans les rues d'Alexandrie. C'est une ville très cosmopolite. Et après, dans les rues d'Aix-en-Provence. Moi, j'ai appris le français dans les rues et dans les livres. Je suis arabophone, anglophone de base, mais j'ai fait un choix culturel difficile. C'est pour déranger d'abord ma famille et causer beaucoup d'insomnie à mon père qui voulait m'imposer l'anglais. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé d'apprendre, de parler et d'écrire surtout en français.
Alors, comment avez-vous découvert Cocteau?
D'abord par hasard, comme je le raconte dans le livre, c'est que j'ai été enfant fasciné par le film Le Tour du Monde en 80 jours. Mm-hmm. Et après le roman de Jules Verne, surtout le roman d'abord, le roman avant le film. D'ailleurs, c'est grâce à ce roman que j'ai appris le français,
oui.
Le Tour du Monde en 80 jours. Et après, le film est venu après me compléter cette fascination de la langue française, et après du voyage. Et après, j'ai découvert plus tard qu'il y avait un autre écrivain français qui a écrit lui aussi un livre qui s'appelle Le Tour du Monde en 80 jours, et cet écrivain s'appelait Jean Cocteau.
Voilà. Alors, la question centrale de notre entretien, évidemment, c'est sur les liens entre Jean Cocteau et l'Orient, Jean Cocteau et l'Égypte. Dans le début de votre ouvrage, Cocteau l'Égyptien, publié aux éditions du Rocher, vous nous présentez, disons, sur le plan familial, vous nous expliquez que l'Égypte n'est pas tout à fait inconnue à Jean Cocteau. Ahmed Youssef, vous avez une explication sur ce point?
Oui. Vous venez de le dire, il était déjà venu avant 49, il était venu en 36.
Oui, il était venu en 36.
Mais même avant 36, il y avait tout un imaginaire.
Eh oui.
Familial, littéraire, culturel. Il y avait toute la France et l'Égypte de la Belle Époque. Il y avait des expositions, des lectures, il y avait des voyages, il y avait le souvenir de la famille. Il y avait plein de choses. L'Égypte était très présente dans la vie culturelle française à l'époque. Et il était très difficile à l'enfant Cocteau d'échapper à l'emprise de l'Égypte au début du XXe siècle. Mais l'Égypte, c'était pas l'Égypte proprement dite, mais c'était plutôt l'Orient. Oui. C'était plutôt l'Orient qui était très présent dans l'imaginaire de l'enfant Cocteau. Et après, très jeune, il est allé, comme je le dis dans le livre, il est allé déjà en Algérie. Mmh. Et l'Algérie qui était, faisait partie de la France à l'époque. Et donc, c'était pour lui pas un voyage vraiment en France, mais un voyage en Orient. C'était la partie orientale de la France. Et il rêvait d'aller voir le vrai Orient, ça veut dire le Moyen-Orient, et dont l'Égypte.
Dès le départ, le personnage de Scheherazade est important. Pour lui, c'est une figure qui a compté dans son écriture. C'est son premier recueil de poèmes s'appelle « La lampe d'Aladin ». Donc, il y a déjà, avant ses séjours, effectivement, des figures littéraires et culturelles de l'Orient qui sont présentes chez Cocteau. Dans quelles circonstances Jean Cocteau entreprend son premier voyage en 1936 ? Dans ces années-là, il part en reportage en quelque sorte. C'est ensuite qu'il va écrire, mais c'est Jean Prouveau, directeur de Paris Soir, qui accepte que Jean Cocteau fasse un reportage en Égypte. Et le principe qu'ils avaient établi tous les deux, c'était d'en tirer un texte, un récit, sur la base d'une longue promenade autour du monde, mécollant à l'aventure de Phileas Fogg et au fameux Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Alors pour Cocteau aussi, c'est un texte fondamental et qui a compté aussi dans son enfance. Alors peut-être que là vous avez un point commun, on va peut-être revenir dessus. Donc quand arrive Cocteau à Alexandrie en 1936, qu'est-ce qu'il découvre ? Quelles sont ses premières impressions ?
D'abord, si vous me permettez, avant le voyage, d'abord, merci d'avoir évoqué les premiers écrits de Jean Cocteau, qui était très inspiré de l'Orient. Et effectivement, c'était un peu, comme je viens de le dire, l'euphorie exotique en France. Donc, le Jean Cocteau lance donc son premier recueil, La lampe d'Aladin. Oui. Et après, la première revue qu'il a lancée, qui s'appelle Scheherazade. Et après, vont suivre d'autres titres très orientalisants. Pour ce voyage de 36, en fait, il venait de rencontrer à Marseille un jeune arabe qui s'appelait Marcel Kelilo. Et j'ai découvert lors de mes recherches que ce Marcel Kelilo n'était en réalité qu'un certain Mustapha Khalilo. L'histoire, vous la connaissez, tombe donc amoureux de lui. Et il décide d'aller à la rencontre de l'Orient. Il avait plusieurs buts. Il y avait le but journalistique, littéraire, que vous venez d'évoquer. Mais il avait aussi, il avait très envie d'apprivoiser ce qu'il appelait cet animal qui s'appelait Marcel Kelilo. Parce qu'il était un garçon un peu sauvage et il voulait donc l'apprivoiser. Il le prend donc en Orient et il lui demande de jouer le rôle de passe-partout dans le personnage de Jules Verne. Et donc, Cocteau, pour abréger, débarque à Alexandrie en 1936, et avec son ami, la première chose qu'ils font, donc, c'est d'aller au quartier du plaisir d'Alexandrie à l'époque. Voilà.
Et puis, c'était la porte d'entrée en Égypte. On arrivait en bateau et on débarquait à Alexandrie. Donc, c'était aussi l'entrée habituelle.
En fait, il faisait donc le tour du monde. Hein. On a oublié de le dire. Parce qu'il voulait faire carrément l'itinéraire de Phileas Fogg, avec même quelques jours en moins.
Oui, le même défi.
Et alors, donc, il arrive à Alexandrie. Et après, là, avec son ami, ils vont voir dans la ville d'Alexandrie, pour des raisons inconnues, le quartier du plaisir qui s'appelait le Kombakir. Et là, Cocteau, si vous me permettez, raconte d'abord, pour entrer dans ce quartier chaud, il raconte au lecteur français le sens du mot Kombakir.
Voilà,
Il dit que le quartier s'appelait Kombakir parce que simplement, ce quartier de plaisir était essentiellement construit pour les soldats britanniques, les soldats de l'occupation britannique à Alexandrie, et que les petites égyptiennes qui travaillaient dans le quartier, les petites filles de plaisir, appelaient les soldats britanniques une fois le service est consommé en leur disant Kombakir, et le Kombakir est devenu avec le temps Kombakir. Depuis, le quartier est devenu Kombakir.
K-O-M-B-A-K-I-R.
Tout à fait.
Alors, effectivement, il a, au cours de son séjour en Égypte, il a passé par Alexandrie, par le Caire, mais il a aussi été à Aden, à Port Saïd. Enfin, il s'est rendu un petit peu partout. Il a été voir aussi les grands sites de l'Égypte pharaonique. Donc, on a un petit peu vu dans quel contexte sentimental il effectue ce premier voyage. Et dans ce récit, quels sont les grands thèmes qui vont revenir le plus souvent ? Parce qu'il a une définition de l'Égypte très liée à la mort.
Oui. Il était fasciné par l'idée de la mort chez les Égyptiens.
Oui.
Il voyait mal la grandeur des pyramides qui étaient à l'origine, comme on le sait, ce n'était que des tombes, en quelque sorte. Ces pyramides sont des tombes, en fin de compte. Et les gens l'oublient souvent, que s'il s'agit de tombes. Elle est allée voir donc, les pyramides, le sphinx, justement, encore le sphinx, où il écrit un texte magnifique, la neige tombe sur le sphinx. Mais ça, c'est une longue, très longue histoire, parce qu'il y avait un spectacle à Paris, dans un cabaret ici, sur l'Égypte et le
qu'il
sphinx.
Qu'il avait vu.
Qu'il avait vu
enfant.
Tout enfant, oui.
Et qu'il avait, où il y avait même de la neige artificielle.
Tout
donc,
à fait.
Ça veut dire, donc lui, il en a tiré autre chose.
Oui, ça veut dire, il voit, lui, Cocteau, que cette bête qui s'appelait le sphinx, en plein désert, avec de la neige qui tombe dessus. La deuxième chose qu'il fait, c'est d'aller voir le sphinx près du Caire. Et là, il nous fait un récit fantastique hein, sur l'idée de la mort et comment ces Égyptiens... D'ailleurs, il a une phrase célèbre, il dit « Sur la carte, l'Égypte est une dalle funéraire.
Mm-hmm. »
Voilà, parce que quand on regarde bien la carte, l'Égypte effectivement ressemble à une dalle. Mais comme il y a des tombes partout, donc l'Égypte est une dalle funéraire.
Oui, il dit la mort est l'industrie principale de l'Égypte.
De l'Égypte, effectivement.
Hein, et puis, on connaît le rapport douloureux au deuil, à la mort chez Cocteau.
On reviendra à la mort, si vous me permettez, encore lors du deuxième voyage, parce que justement, le deuxième voyage va être provoqué par la mort d'un de ses proches.
D'ailleurs, à un moment dans le récit, Cocteau expose sa méthode de travail. Il explique un petit peu ce qui est à l'origine de son inspiration et à la base de son écriture. Quelle était sa démarche lors de ce séjour ? Est-ce que vous pourriez nous en parler, Ahmed Youssef ?
Oui. En fait, il est partagé d'abord entre deux mondes, parce qu'il vient de l'Occident, où la mort n'est pas tout à fait présente dans les esprits. En fait, parce qu'ici, on ne se prépare pas vraiment à la mort. Là-bas, tout est fait dans la préparation de la mort, et notamment chez les Égyptiens de l'Antiquité. Il a écrit quelques poèmes tirés du thème de la mort.
Oui.
Je crois que même un peu plus tard, un peu avant 49, où il commencera à perdre peu à peu ses amants, l'un après l'autre, mais tous dans des conditions dramatiques, le thème de la mort va vraiment revenir très fort dans son esprit. Et c'est là où il décidera de revenir en Égypte, revenir vers la terre de la mort.
Est-ce que dans ce récit, Cocteau sépare les deux Égyptes, l'Égypte pharaonique et l'Égypte d'aujourd'hui, à l'époque, l'Égypte des années 30.
Oui, bien sûr.
C'est un petit peu le dilemme qui se pose à chaque visiteur en
Égypte,
d'ailleurs. Hein, comment tout voir ?
Oui, c'est vrai, c'est
quel
un dilemme.
Choix opérer ? On sent aussi ce dilemme chez Cocteau dans son récit. Quelle vision avait-il des Égyptiens ? Parce que justement, dans sa méthode de travail, à un moment, il explique qu'ils fondent tout sur la rencontre. D'abord parce qu'il est accompagné de Passepartout qu'il aime, mais aussi son voyage est une suite de rencontres avec les Égyptiens. Et les moments d'émotion de son écriture, pour lui, sont liés à la rencontre d'Égyptiens de la rue.
D'abord, à Alexandrie, il s'était lié d'amitié avec un certain Salomon Assoun. Assoun, H-A-2-S-E-N. Salomon Assoun est l'oncle de Jacques Assoun, le grand psychanalyste français qui était un élève de Lacan, qui est mort il y a quelques années à Paris. Eh bien, son guide, en quelque sorte, c'était Salomon à Alexandrie. Effectivement, c'était une série de rencontres avec les Égyptiens, notamment les Égyptiens de la rue. C'est très important. En fait, on est effrayé quand on lit un peu sa description de l'Égypte de l'époque, parce qu'il brosse un tableau noir.
Quelle était sa vision sociale ?
Ah oui,
parce qu'il en a une, effectivement. Mais ce ne sont que quelques phrases, formules données.
On s'est mal compris avec Cocteau, tous.
Oui.
Ce que lui, il voyait, il parlait de la misère des Égyptiens, mais il voyait que dans cette misère, il y a une élégance.
Oui.
D'où d'ailleurs sa fameuse phrase, la vraie élégance, c'est celle qui consiste à ne pas se montrer. Et donc, il voyait dans cette misère une certaine élégance et même dignité. Mais nous, Égyptiens surtout, ces critiques français, ont beaucoup reproché à Cocteau de focaliser sur la misère et la pauvreté de la rue en Égypte. Et ce décalage terrible entre les signes de richesse, les voitures, les immeubles, tout ça, et après toute cette pauvreté, comme il disait, qui circulait dans la rue. Il dit, la pauvreté circule dans la rue au Caire. Et après, Cocteau, bien évidemment, en 1936, était venu de son propre initiative. C'était un voyage, privé.
Oui.
Et c'est tout le contraire du voyage de 1949. Hein. Ça,
oui,
c'est autre chose.
Oui, oui. On va donc, en parler dans la deuxième partie.
Oui, donc il était venu tout seul. Oui. Il n'était pas accueilli par ni ambassadeur, voilà, ni roi, ni prince. Mmh. Donc il était en quelque sorte
libre,
obligé à aller dans le contact de l'homme de la rue.
Alors, avant de marquer une courte pause, dans ce fameux récit, Mon premier voyage, il évoque aussi la rencontre qu'il aura avec Charlie Chaplin. C'est un très beau texte. Il parle de New York. Il y a des très, très beaux moments. J'invite les auditeurs à redécouvrir ce texte où il y a beaucoup de gaieté par moment. Il y a beaucoup d'humour. On sent une écriture qui n'est pas trop pesante, mais au moment où il parle de l'Égypte, effectivement, là, c'est le thème de la durée, du temps, de la mort qui ressort quand même par rapport aux autres lieux de ce premier voyage publié en 1936.
D'abord, merci d'avoir évoqué Charlie Chaplin, parce que moi, d'abord, je l'aime beaucoup.
Et puis les deux hommes s'appréciaient
énormément,
beaucoup.
Énormément.
Et c'est très bien écrit. Dans
d'ailleurs, on a pas mal de photos des deux hommes ensemble. Mm. Pas dans mon livre, parce que c'est un livre sur l'Égypte. Oui. Mais quand on regarde le catalogue, l'album de photos, il y a plein de choses avec Charlie Chaplin. Alors, Chaplin adorait Cocteau, simplement parce qu'il connaissait très bien le cinéma de Cocteau. Il faut dire qu'à l'époque, La Belle et la Bête faisait le tour du monde. Le film faisait le tour du monde. C'était un chef-d'œuvre absolu dès sa naissance. Et donc, ils se rencontrent tous les deux. Pas Alexandrie, à Poseidon. C'est un peu plus tard. Oui. C'est là où Chaplin dit à Cocteau cette phrase célèbre aujourd'hui. Célèbre grâce à Cocteau, parce que Cocteau qui l'a répondu. Chaplin lui a dit, voilà, en jouant le rôle du pauvre, je suis devenu l'homme le plus riche de la terre. Ben, c'était ça, effectivement. Et alors, il révèle à Cocteau donc ce projet de tourner un film en Égypte. Et après, Cocteau lui dit non, là, c'est difficile ici. Et donc, il fait rater, malheureusement, à l'Égypte cette occasion d'avoir un film tourné en Égypte. Mais enfin, c'est une autre histoire.
Alors, nous allons marquer une courte pause, Ahmed Youssef, et nous allons vous retrouver pour continuer à évoquer Jean Cocteau l'Égyptien, mais cette fois dans les années 40, enfin en 49, pour un second voyage, un long séjour en Égypte, dans quelques mois à peine, mais qui a été très marquant pour lui également.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
On retrouve Ahmed Youssef, l'auteur de Cocteau l'Égyptien, publié aux éditions du Rocher en 2001. Alors, Ahmed Youssef, on va aborder dans cette seconde partie d'émission un autre texte célèbre de Jean Cocteau, Malèche, qui est en fait un journal de voyage, de théâtre, d'un séjour qu'il a fait en Égypte entre mars et avril 1949. Et c'est le journal d'une tournée de théâtre qui s'inscrit dans un voyage plus large au Moyen-Orient, dans lequel ont été jouées plusieurs de ses pièces, et l'accompagnait également toute sa troupe et Jean Marais. Alors, quelle est l'histoire de ce texte, Ahmed Youssef, qui a été publié en 1950 et chez Gallimard? Quel est son intérêt aujourd'hui?
Alors, c'est un texte qui n'est pas connu du public français, mais notamment de ceux qui sont très liés à la littérature de Cocteau. Et c'est une chose très étonnante. C'est pratiquement le plus grand récit de voyage littéraire en France dans les dernières 50 années. Le livre, en fait, c'est un texte, c'est le journal de voyage. Oui. Cocteau prenait tous les soirs chez lui le temps, il trouvait le temps d'écrire tous les soirs, donc de tenir son journal.
Parfois, il n'avait pas le temps, justement.
Il n'avait pas le temps de le dire.
On va l'expliquer.
Tout à fait. Et alors, donc, dès son retour en France, fin 49, il publie le livre sort en 50, donc vraiment à peine quelques mois après son retour en France. Le livre, d'abord, est étrange, je ne sais pas si on peut parler maintenant de ça, mais son titre, son sujet, oui, les images qu'il donne, les personnages qui sont dedans, alors, et après sa vraie valeur littéraire.
D'abord le titre, Malèche, qu'est-ce que ça signifie?
Alors Malèche, vous voyez, d'abord, c'était un peu de sa part, un pari terrible, de donner un titre complètement égyptien à lui qui a écrit La Machine Infernale, qui a fait La Belle et la Bête, qui a fait Les Parents Terribles, qui a traduit surtout aussi quelques pièces de théâtre d'origine grecque antique. Et là, il prend un terme égyptien, Malèche, qui veut dire il n'y a pas de problème, il n'y a pas de quoi. Et comme il raconte lui-même, chez les Égyptiens, le mot Malèche,
ça ponctue beaucoup de phrases.
Oh là là, énormément de phrases. Il dit que vous marchez dans la rue, on vous marche sur les pieds, et après, on vous dit Malèche, Malèche. Donc, c'est un mot qui revient jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, en Égypte, ce mot de Malèche. Voilà, donc le titre. D'ailleurs, je me demande, moi, si ce livre n'a pas eu le succès escompté de la part de Cocteau, passe à cause de son titre. Je n'en sais rien. Mais de toute façon, ça pourrait être aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, un beau titre pour un beau livre, ou une pièce même de théâtre, ou même une chanson en France, vous voyez, aujourd'hui. Mais dans les années 50, on était encore très loin de la France un peu orientalisée.
Alors, c'est un éclairage sur la vie mondaine, mais d'abord, dans quelles circonstances amicales vient-il cette fois en 1949? Parce que là, effectivement, il est très touché encore par un drame personnel.
Oui, son ami Bérard, Christian Bérard, donc qui est mort.
Qui est peintre, son fameux peintre.
Et son décorateur, c'est lui qui faisait très souvent le décor de ses pièces. Et on a encore des traces de Bérard dans un de ses restaurants, je ne veux pas citer son nom, qui se trouve en face de l'Odéon. Il y a toute la peinture de Bérard sur les tables, etc. Mais alors, Bérard est mort très peu de temps avant le voyage donc en Égypte, et Cocteau sombre dans une sorte de dépression terrible, et ses amis, notamment André Gide, lui proposent donc d'entamer un voyage en Égypte. Il accepte, à ce moment-là, on lui propose de faire une tournée de théâtre en Égypte, l'ambassade de France, avec un homme d'affaires égyptien, je ne le dis pas vraiment dans le livre, lui propose donc de faire une tournée de théâtre en Égypte. Il profite donc de cette invitation et il accepte le voyage en Égypte. Et c'est comme ça qu'il commence sa deuxième tournée en Égypte en 1949.
Dans un cadre officiel, dans le cadre aussi d'une vie très mondaine, qu'il trouve fatigante d'ailleurs, par moments il le dit. Alors, dans ce texte, qui est parfois très triste par moments, quelle est la vision sociale qu'il a de l'Égypte? On a parlé tout à l'heure dans le premier texte de la misère, mais effectivement, là aussi, il y revient. Et comment est-ce qu'il le perçoit? Est-ce qu'il y a une évolution entre son premier voyage et puis 49?
Pas vraiment.
On ne le sent pas.
Non, pas vraiment. Ça veut dire que le seul changement, c'est ce que vous venez d'appeler la vie mondaine. C'est effectivement ce voisinage, cette proximité plutôt avec les princes, avec la cour, avec les intellectuels francophones égyptiens, avec le théâtre, avec l'opéra du Caire, avec Taha Hussein, le plus grand donc écrivain arabe de l'époque. Donc c'est le seul changement. Là, il se frotte un peu à l'intelligentsia égyptienne. C'est tout le contraire si on voulait qu'on parle de voyage de 36. Mais à part ça, dans la rue, eh bien la rue est la même.
Oui,
L'Égyptien est le même.
Mais on ne le ressent pas dans ce deuxième texte de Cocteau. Le seul lien qu'il a vraiment avec les Égyptiens, c'est le public. Et il l'aperçoit des coulisses, il guette leurs réactions, il sait quand ils vont rire, il connaît leurs réactions. Mais effectivement, on n'a pas cette proximité avec les gens de la rue évoqués dans le premier, dans l'autre récit. On est dans un cadre complètement différent. Alors, comme vous l'avez dit, il rencontre Taha Hussein, grand écrivain égyptien. C'est une belle rencontre, un peu comme celle de Charlie Chaplin qu'on évoquait tout à l'heure. Taha Hussein a été ministre de l'Éducation nationale. C'est un écrivain, bon, on sait qu'il était aveugle, mais l'amitié qui a lié les deux hommes s'est faite sur la Grèce. Vous pouvez nous expliquer ?
Je voudrais vous parler un peu largement de cette rencontre, parce qu'elle est... elle est un peu au cœur de ce voyage.
Oui.
C'est André Gide qui a proposé à Cocteau d'aller en Égypte, mais surtout d'aller voir Taha Hussein. Pourquoi ? Parce que Gide connaissait déjà Taha Hussein. Il l'avait rencontré au Caire. Il avait préfacé son chef-d'œuvre, le Livre des Jours, qu'on a encore aujourd'hui, avec une magnifique préface d'André Gide. Donc, il lui remet une lettre à Taha Hussein. Donc, il y avait toute une histoire entre Taha Hussein et la France, et lui qui était marié avec une Française. Oui. C'était au moins une figure assez, assez
c'est
éminente.
C'est la grande figure emblématique du roman égyptien.
Et arabe.
Arabe.
Et alors, si vous voulez, donc, Cocteau, d'ailleurs, il décrit c'est la rencontre merveilleusement bien. C'est l'entrée dans la villa de Taha Hussein, le salon, la rencontre, de quoi ils ont parlé. C'était un récit assez, assez détaillé de la part de Cocteau qui aimait, lui, plutôt parler des choses colorées. Avec... Et alors, si vous voulez, le plus grand point commun entre les deux, comme je le dis dans le livre, d'abord, ce sont deux hommes complètement différents d'origine. Pas seulement d'origine... par rapport à leur pays de naissance, à leur pays natal, mais même d'origine culturelle, familiale. Taha Hussein vient du fin fond de la misère de la campagne égyptienne. Et après, il est aveugle, il est frappé par une maladie.
Maladie très jeune.
Et après, il y a toute la misère de l'Égypte entière, dont parlait Cocteau de toute façon. Si elle se trouvait dans les villes, alors imaginez-la dans la campagne. Vous voyez ce que je veux dire. Et avec un Cocteau bourgeois, mais alors... en excellence, un homme très lié à la culture raffinée occidentale d'une façon générale. Le théâtre, la musique classique, la peinture, etc. Tout est promis dans le bonheur pour Cocteau et tout a été promis dans la misère pour Taha Hussein. Eh bien, les deux se forgent, s'effraient une voie pour qu'ils se rencontrent au Caire en 1949. Et vous avez évoqué le point commun grec, helléniste plutôt, voulez, ou hellénistique, c'est effectivement, les deux étaient passionnés de la Grèce antique. Taha Hussein a traduit Œdipe, le mythe qui fascinait Cocteau. Cocteau avait fait une pièce de théâtre là-dessus. Donc, vous voyez, c'était un grand point commun. J'aimerais bien vous dire comment Cocteau a réussi à résumer de cette montagne égyptienne qui s'appelait Taha Hussein.
Ah oui, il a une très belle formule, je vous laisse la dire.
Oui, s'il vous plaît. Alors, par exemple, d'abord, il commence par reprendre une phrase de Gide que se trouve dans la préface du Livre des Jours. Gide parle de Taha Hussein. Gide parle de la cécité de Taha Hussein. Mm-hmm. Et il dit qu'en Égypte, le seul qui voit les choses, c'est Taha Hussein. Alors, Cocteau, dans Malish, il dit « Taha Hussein est aveugle, mais il voit plus loin que les autres. » Il dit même que c'était à l'origine de ses problèmes avec l'État égyptien, avec même la classe dirigeante, c'est parce qu'il voit plus loin que les autres. Il dit aussi, si vous me permettez, « Avec Taha Hussein, l'Égypte cesse d'être un simple objet de promenade. » Ah, je trouve que c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et après, il parlait d'autres choses, l'amour de l'opéra chez Taha Hussein, alors que lui, il est aveugle. Et comment Taha Hussein commentait la laideur, par exemple, d'une cantatrice.
Oui.
Pas la voix, mais la laideur. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et là, je vais être un peu intarissable là-dessus, si vous me permettez. Une dernière chose. ce que Tahassène a écrit, si vous voulez qu'on en parle après, l'article qu'a écrit sur Cocteau.
Oui, ben, on va voir quelles sont les réactions. En fait, comment Malèche a-t-il été accueilli justement en Égypte à sa publication en 1949? Parce que là, il y a eu des polémiques et des visions différentes, des interprétations, des réactions assez violente.
Oui.
Et je crois que là, vous avez justement dans votre livre, vous avez beaucoup travaillé sur ces polémiques.
Je reviens même quelques secondes sur Tahassène. Mais Tahassène, pendant son séjour de Cocteau en Égypte, a écrit à la une du journal Al Ahram, dans lequel je travaille moi aujourd'hui.
Oui.
A écrit un article qui s'intitulait Ô Égypte, réveille-toi. Cocteau est parmi nous. Et l'article a fait un grand scandale. Un énorme scandale en Égypte. D'abord parce que Cocteau n'était pas tout à fait bien vu auprès des intellectuels égyptiens francophones de l'époque. Je ne sais pas si son homosexualité y est pour quelque chose, mais très probablement c'était pour ça d'abord. Et deuxièmement, parce que les Égyptiens étaient très attachés plutôt au genre classique français. Je vous rappelle que Cocteau même n'était pas tout à fait bien vu en France à l'époque non plus. Bon, alors en Égypte, on peut le comprendre. Donc cet article de Tahassène a fait un grand scandale et Cocteau en parle largement dans Malèche.
Oui.
Pour revenir à votre question, Malèche a été publié en 1950.
Oui.
Et le livre a fait scandale en France aussi.
Oui.
Mais auprès surtout des intellectuels français très égyptophiles qui refusaient que ce Cocteau qui comprend rien à l'Égypte, débarque, il reste quelques semaines, et il revient, il fait un livre qui est une sorte de brûlot contre l'Égypte contemporaine. Et qui commente l'Égypte antique, qui commente les pharaons, qui parle de la langue égyptienne, des Égyptiens.
Ça, de la religion.
Et de la religion. Ça peut susciter l'ire de certains intellectuels français très pro-égyptiens.
Lesquels?
Dont Étiemple, René Étiemple.
René Étiemple.
Alors, Étiemple qui a publié dans les temps modernes
un texte fantastique. La grande revue de l'époque.
Que j'ai publié en annexe dans le livre.
Que vous avez publié à la fin de votre ouvrage,
oui.
Effectivement.
Et qui s'appelle La Mouchmal. Alors, regardez ça, c'est passionnant.
Alors, le texte d'Étiemple a pour titre La Mouche Malèche.
Oui, ce que veut dire un Égyptien, non, c'est pas Malèche.
Voilà, qui veut dire l'inverse.
C'est l'inverse de Cocteau.
C'est-à-dire,
si Cocteau se sert d'un mot égyptien pour écrire un texte sur l'Égypte, eh bien, son contradicteur, pour ne pas dire autre chose, se sert aussi de la langue égyptienne pour donner un titre à son texte publié dans les temps modernes.
Alors, quelle était la position de René Étiemple?
Oh là, vous imaginez un peu, retenez René Étiemple qui, à l'époque, vivait encore en Égypte, enseignait à l'université d'Alexandrie.
Oui,
était presque un arabophone. Elle était l'ami des grands écrivains égyptiens.
Travaillait avec Tahassène.
C'était le grand ami de Tahassène.
À ce moment-là, l'université où il travaillait.
Vous savez tout. Et alors, Étiemble qui se considérait un peu comme le gardien du temple. Et il refusait cette image un peu mesquine de l'Égypte en France. Et il accusait Cocteau de véhiculer, de propager cette image. Donc, ceux qui vont lire le texte d'Étiemble dans mon livre vont découvrir que vraiment une méchanceté horrible à l'égard de Cocteau. C'était je ne veux pas dire des insultes, mais c'était des critiques assez virulentes.
Oui, le texte est un texte fort, c'est un texte polémique, mais l'ouvrage de Cocteau a été interdit en Égypte.
Eh bien, il est encore interdit.
Et il est encore interdit. Ça, je ne savais pas.
Oui. Alors, ce livre, l'attaché de presse du roi Farouk disait à Cocteau, qui était un ami à Cocteau lui aussi, disait à Cocteau, Monsieur Cocteau, votre livre a coûté à l'Égypte 30 millions de livres. C'est-à-dire le livre, il voulait nous dire que cela a dissuadé beaucoup de touristes de venir en Égypte et du coup l'Égypte a perdu des recettes de tourisme de 30 millions de livres. La phrase est un peu exagérée, mais c'était joli. Votre livre a fait perdre à l'Égypte 30 millions de livres. Donc le roi ordonne donc l'interdiction du livre et du coup il n'a jamais été publié en Égypte.
Aujourd'hui, vous pensez qu'une telle polémique serait possible ou serait aussi...
Non, c'est fini,
c'est
ça.
Fini.
Maintenant,
c'est fini.
Alors, c'est fini, complètement fini. D'abord, parce qu'il y a la télévision, vous savez, il y a 40 000 Français qui vivent en Égypte. Il y a l'engouement de l'Égypte en France aujourd'hui, cette égyptomania.
Comment est-ce qu'on peut expliquer la virulence de la polémique à l'époque. Parce qu'on est en 49, c'est pas encore le coup d'État des officiers libres, la révolution n'est pas encore en marche, mais est-ce que c'était justement le symptôme d'une crise qui a fait
Bravo.
Que les choses se sont
cristallisées
à ce point?
Ah oui, c'est une très bonne question. Oui. Oui. Cocteau l'a senti un peu.
Est-ce que c'est ça qui peut expliquer la radicalité des propos de l'époque?
Absolument. Moi, ça me fascine. Au fond, ce récit de Malesch, mais c'était une sorte de sonnette d'alarme.
Oui.
Cette Égypte misérable, avec cette classe dominante, cette classe dirigeante, c'est le roi et les princes, et cette vie mondaine qui vit en dehors de l'Égypte. En dehors, je parle dans le sens figuré, bien sûr, du mot. Et que Cocteau disait que cela ne peut pas continuer, c'est impossible de vivre avec une misère absolue et après une opulence absolue. Et à la fin du livre, je donne plein de phrases là-dessus.
Sur la misère, justement, dans ce texte, on peut citer une phrase de Cocteau.
Oui, allez-y.
Il dit « Il arrive que le peuple du Caire m'écrase le cœur. » Quoi ? Tant de haillons, tant de contrastes atroces entre la richesse des véhicules et le vanne-pied. Mais je me console en constatant que cette détresse n'en est pas une comme elle le serait en France. Il y a quelque chose de facile, de détendu, où trempe la foule, quelque chose en quelque sorte de fastueux. Gide m'avait prévenu de ce contraste, il ne le supportait pas.
Oui, mais ce contraste, malheureusement, avec beaucoup moins de misère, bien évidemment, existe encore. Les Français qui vont au Caire aujourd'hui, ils sont frappés, bien sûr, par la grandeur des pyramides, des temples, et après cette intelligentsia égyptienne très raffinée, etc. J'en fais pas partie, hein, croyez-le. Et après, cette misère de la rue. Eh bien, c'est l'Orient, hein. C'est toute la magie de l'Orient. Et j'ai l'impression, moi, personnellement, et c'est la place, ça a échappé à Cocteau. L'Orient ne peut pas vivre sans les deux. C'est une sorte d'éternelle dualité. Entre le noir et le blanc, entre la misère et la richesse, la nuit et le jour, c'est l'Orient. Si vous allez au Caire ce matin, par exemple, vous allez au Caire, il y a une lumière atroce, fait un soleil extraordinaire, il fait très jour, on a mal aux yeux. Et après, le soir, une nuit assez envahissante, assez dominante, assez, une nuit extraordinaire. C'est ça l'Orient. Et après, tout le monde cohabite parfaitement bien. Avec les riches, les pauvres, le jour et la nuit, etc. Tout le monde cohabite parfaitement bien.
Pour conclure, que préférez-vous, Ahmed Youssef, dans l'œuvre de Cocteau, s'il vous est possible de faire un choix? Quel est le texte qui vous vient à l'esprit, ou le poème, ou l'horrible question?
Ah oui.
alors, peut-être beaucoup... que c'est impossible.
Non, mais si je vais, par exemple, quand j'ai mal à la tête, par exemple, je lis son recueil qui s'appelle « Opéra ». Et le mal à la tête tombe tout seul. Vraiment, je lis Opéra, c'est une sorte d'antidote extraordinaire. Mais il a écrit des textes magnifiques. Quand on lit son livre qui s'appelle... C'est un livre où il raconte les vies des hommes qu'il a rencontrés.
Les portraits souvenirs.
Les portraits souvenirs.
C'est ça.
Franchement, c'est un chef-d'œuvre de la littérature française moderne. Mm-hmm. Heureusement qu'on continue à publier parce que ce n'est pas encore terminé. Et chaque chapitre est un bijou à part. J'aime beaucoup son cinéma, bien évidemment.
Oui.
Mais Cocteau a fait beaucoup d'autres choses. Il a fait de la peinture. Il a tatoué les murs. Vous savez très bien cette histoire. La Villa Santo Suspiro. C'est un monde, Cocteau. C'est pas un homme.
C'est un univers. Ces deux textes qu'on a beaucoup évoqués, Mon premier voyage et Malesch, ont-ils nourri votre propre représentation de l'Égypte, Ahmed Youssef?
Ça, c'est le jeu de miroir. Vous voyez, ça veut dire, moi, c'est en France que j'ai découvert, et que c'est grâce à Cocteau, mon égyptianité. Je suis venu, un égyptien, point final, mais découvrir l'identité culturelle de l'Égypte, c'est grâce à Cocteau, entre autres, bien évidemment, mais c'est surtout Cocteau, d'abord. Et après, je suis resté très longtemps, très influencé, impressionné par sa poésie sur l'Égypte, parce que là, malheureusement, la mémoire ne m'aide pas à me rappeler de sa poésie égyptienne, parce qu'il a écrit beaucoup, beaucoup de choses sur l'Égypte, antique notamment. J'aime beaucoup son analyse de l'Égypte antique. Quand il dit les deux égyptologies, il parle de deux égyptologies. L'égyptologie des égyptologues, disons, un peu empirique, les égyptologues réalistes, et après ceux qui sont un peu ésotérique, ce qui lie l'Égypte un peu à des idées un peu extraterrestres, francs-maçons, etc. Il pense qu'il y a une guerre de velours entre les deux égyptologies. Et quand on regarde la réalité aujourd'hui, on découvre qu'effectivement, les deux égyptologues ne s'aiment pas du tout. Les deux camps, je veux dire. Voilà.
Alors Ahmed Youssef, merci de nous avoir accompagnés sur les chemins de l'Orient empruntés par Jean Cocteau au cours de sa vie et de son écriture, et de nous avoir aussi révélé votre part égyptienne d'homme. Merci.
C'est à vous.
Je vous propose d'écouter un extrait de Malèche de Jean Cocteau. Elisabeth Prévost et une foule amicale nous attendaient et nous accompagnèrent à la douane. J'y retrouve les cris, la bousculade, le désordre des peuples méditerranéens. Les valises se perdent, se retrouvent, voltigent. On devine que les anges puissants nous survolent. La douane, interminable en Égypte, ne dure que quelques minutes. Nous nous retrouvons dehors, au soleil, nous perdant, nous groupant, nous reperdant, nous regroupant, jusqu'à ce qu'une des voitures de Mohamed Wahid Eldin nous emporte. Elle est conduite par son secrétaire Carullo. De cette minute, la voiture de Wahid et son secrétaire seront des nôtres. Il devinera nos moindres démarches. Nous aurons beau dissimuler nos entreprises, voiture et secrétaire se retrouveront toujours à notre service. Les voitures d'Égypte sont magnifiques et puissantes. Du moins, elles expriment la puissance de l'Égypte car elle ne peut en faire usage. Sauf la route des pyramides, l'autostrade reliant le Caire à Alexandrie, bétonnée par la Shell, et la route du Caire à Fayoun, il n'existe pas de route. La première chose qui frappe de la voiture, c'est le mélange d'un luxe et d'une misère aussi extrêmes l'un que l'autre. Mais si le luxe manque parfois d'élégance, la misère affiche la sienne. Sur le trottoir, au bord des zones construites en boue, sur les ponts, sur les charrettes taxis où s'entassent les femmes drapées de noir, les longues chemises sales, les cache-nez enroulés autour de la tête, les pieds nus, les démarches, les hautes nuques sombres sont d'une noblesse, d'une richesse qu'aucun costume de théâtre n'égale. Ce peuple qui flâne et qui dort dans la poussière adopte par mimétisme les teintes inimitables du sable, du ciel, de l'eau du Nil. Faite pour la paresse et la mort, plus longue et plus sûre que la vie, cette race que le café, le haschich et le thé noir énervent se partage entre une activité de cours de collège et la petite mort du sommeil. Les klaxons n'arrêtent pas. Les chauffeurs klaxonnent sans motif, comme un enfant joue de la trompette. De ma chambre d'hôtel, c'est un extraordinaire vacarme de klaxons, un vacarme de toutes les couleurs.